Radio Kapi, grand témoin.
Il a tour à tour été président administrateur délégué de la MIBA, gouverneur de la province du Cathay Oriental et ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il est député national. Jean-Charles Okotolola Kombé est l'invité de Grand Témoin. Jean-Charles Okoto, comment se sent-on à 53 ans?
Je venais d'avoir mes 53 ans.
Bon anniversaire.
Merci, merci. Je crois que c'est un début de la sagesse. Et on se sent vraiment dans le printemps de la vie et je crois qu'on s'approche de plus en plus à une étape où on doit faire très attention, c'est-à-dire sur le plan de la santé, sur le plan politique et sur le plan économique.
Avec vous, nous parlerons de votre carrière politique, de votre passage à la tête de la MIBA et aussi de votre parcours dans le monde sportif, puisque vous êtes à ce jour le président de la grande famille Motema Pembe. C'est à Kananga que vous voyez le jour dans une famille de chefs coutumiers. D'ailleurs, vous êtes vous-même grand chef coutumier du Sankuru. Parlez-nous de votre pouvoir coutumier.
Parlez de mon pouvoir, je crois que c'est un pouvoir héréditaire. Ça a commencé par mes arrières grand-grand-grand-père et mon papa qui venait de me quitter il y a de près 5 ans. Et suite à sa disparition inopinée, j'étais obligé de coiffer le groupement Odima Manda. Présentement, je crois que je suis absent de ma juridiction parce que j'ai nommé un intérimaire, parce que moi je m'occupe d'autre chose au sein du Parlement. Et je suis à contact permanent avec ma base et de temps en temps, quand les situations se compliquent, ils ne cessent pas de se référer à moi et chaque mois, j'ai le rapport et les activités de ma juridiction, de ma population, tant sur le plan politique que sur le plan économique.
Comment salue-t-on les chefs coutumiers dans le Sankuru?
Ah là, vraiment, on est vraiment des rois. On est des rois, je me rappelle encore, la première fois que je suis arrivé au village, où j'avais 8 ans, je crois que de l'aéroport de Lodja jusque à Manda, chez nous au village, j'étais transporté par un chipoy avec mon grand-père. Et mon père sur un autre chipoy, mais ma mère, comme chez nous les femmes, ne monte pas sur un chipoy, ma mère est obligée de venir par moto.
Alors que Sa Majesté m'excuse si je ne l'ai pas salué selon la coutume. Le pouvoir coutumier ne vous a pas empêché de faire des études, puisque c'est à l'école primaire Saint-Quisito de Tchoumbé que vous obtenez votre certificat primaire en 1967. Quels souvenirs vous retenez de cette période de votre vie?
Je crois que Christophe Lutundu, l'actuel vice-président du Parlement, me suit. Monsieur Mendy Lambert également, ministre des Hydrocarbures, me suit. Sans oublier tant d'autres qui ont évolué avec moi au Sankuru. Cette époque, je crois que c'est l'étape la plus importante de ma vie. Et il faut avouer également que j'avais un succès fou. Un succès fou parce que je fus un très bon danseur et un organisateur aussi dans le prétend de ma vie. Parce que j'étais le patron de ce qu'on appelait Jack. C'est un mouvement comme le scout, comme le libretto, et moi j'étais le patron. Et je me rappelle à chaque fois qu'il y avait une manifestation au collège, une fois qu'on annonce que je vais danser, il y a même des vieillards de 90 ans qui prenaient leur canne pour venir me voir. Et quand bien même qu'elles étaient pauvres, mais elles n'hésitaient pas de me donner ne fût qu'un franc parce que je dansais bien. J'étais un très bon acteur également du théâtre. J'étais très 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 social. Beaucoup de gens m'aimaient facilement et sans barrière. Et je m'intégrais aussi facilement dans n'importe quelle société. Je jouais très bien au foot.
Votre diplôme d'état des humanités sociales, c'est au collège Saint-Albert-le-Grand de Tchoumbé que vous l'obtenez. Et en 1982, vous devenez licencié en relations internationales de l'université de Lubumbashi. Là déjà, vous étiez ministre chargé des sports et loisirs du comité sous-sectionnaire de la jeunesse du mouvement populaire de la révolution, campus de Lubumbashi. Est-ce vos débuts dans le sport?
C'est peut-être un destin. Comme je vous l'ai dit, dans ma jeunesse, je jouais au poste numéro 10. Je suis un très bon joueur, mais un joueur qui n'avait pas assez de souffle. Et il n'y a pas également que j'ai obtenu mon diplôme des humanités. J'avais beaucoup pleuré parce que j'avais moins de pourcentage que ce que je faisais.
Je souhaitais.
Ouais, je souhaitais parce que j'avais un zéro. J'avais dû aider un petit à moi, Laurent Onyemba, qui est déjà mort, parce qu'il était faible à maths. J'ai eu à l'aider, et on m'a attrapé. Donc, j'avais un zéro. Donc,
c'est considéré comme tricheur.
Voilà. Comme j'avais eu comme un pourcentage de 65,8. Donc, j'ai eu à pleurer, parce que j'étais toujours le premier ou le deuxième de ma classe. Mais j'avais déjà commencé avec la démocratie au campus. Il fallait, pour être dirigeant, il fallait passer par les élections. et moi j'étais élu comme ministre chargé de sport. Je ne sais pas si c'est un début de mes responsabilités en sport, mais sinon je crois que c'est un destin. Parce que j'aime beaucoup les jeunes, j'aime m'amuser, et j'ai un temps pour travailler, j'ai un temps pour m'amuser, et j'aime aussi la musique.
Vous êtes président de la grande famille Motema Pembe, mais vous avez quand même été élu dans une ambiance très surchauffée. Hein? Comment vous trouvez ça, Jean-Charles Lokoto?
Je crois que c'est vrai. D'abord, pour un rappel bref de fait, ce n'est pas la première fois que j'ai été élu à la tête du MANA. Il y a de cela 3 ou 4 ans, j'ai été élu, je n'étais même pas dans la salle. J'ai été élu par acclamation. C'est comme cette fois-ci. Cette fois-ci, il est vrai que c'est à dents décidées. À dents décidées, pourquoi? Parce que l'équipe était complètement déchirée. Je n'étais même pas le candidat d'ailleurs. Je suis le tout dernier qu'on est venu repêcher. L'équipe était, une fois dans la rue, complètement exfoliée en lambeaux. Des divisions internes presque partout. Chaque supporter se retrouvait derrière un dirigeant. Et je crois que je suis venu faire la discipline. Compte tenu de mes activités, aujourd'hui je suis député national. À l'Assemblée, je suis deuxième vice-président chargé des relations extérieures. Je suis comme le ministre des Affaires étrangères du Parlement. Au même moment, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore secrétaire national chargé des partis au sein de mon parti, le PPRD.
Chef coutumier.
Chef coutumier, sans oublier mes petites affaires, la radio Horizon 33. Et je me suis dit, je n'aurai pas le temps de m'occuper de l'équipe. Mais étant sportif, et moi aussi, surtout, mon équipe, je ne pouvais pas laisser l'équipe dans la rue. Je crois que la récupération est terminée.
Quelle est la santé de Motema Pembe à ce jour?
Présentement, je veux vous dire que Motema Pembe a une santé olympique. À me voir, ça traduit la santé de mon équipe. Le jour où je suis arrivé à la tête de l'équipe, il n'y avait que 4 joueurs. Aujourd'hui, je peux vous avouer, à l'espace de 3 mois, je viens de réaliser aujourd'hui le recrutement de plus de 30 joueurs. Et je crois qu'à une seconde, 2 minutes, j'ai eu à réunir et la Providence m'a aidé d'avoir un entraîneur qui vient de Bruxelles. Je crois que nous avons pu également doter notre entraîneur, Papa Mukeba, qui est aligné d'ailleurs comme le coach de l'équipe nationale, d'une voiture. Et il y a même d'autres joueurs qui ont été dotés de voitures, ça crée déjà la jalousie. J'ai arrêté un peu l'hémorragie, j'ai dit, bah, écoute, qu'on continue parce que sinon ça risque de perturber l'ordre. Aujourd'hui, le problème au niveau de la grande commission, c'est ce qui nous reste, c'est parce qu'il y avait des petits conflits par-ci par-là.
Est-ce un début de professionnalisme?
Moi, c'est ça l'ambition que j'ai. Si on pouvait nous aider, j'appelle à la bonne conscience du gouverneur de la ville, parce que nous sommes ses locataires, nous sommes ses équipes, parce qu'il y a 2 équipes qui vont aller sur l'échiquier plutôt continental. Je citerai Vita Club et Imane Motema Pembe, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été assisté, et même quand nous traversons, on ne sent pas un soutien de la ville, et
de l'autorité.
De l'autorité urbaine. Moi, je crois que monsieur le gouverneur, si vraiment il peut prendre soin d'encadrer ces 2 équipes, parce que ça fait quand même honneur le plus grand bénéficiaire, même le jour où nous allons livrer le match, le plus grand bénéficiaire, c'est lui.
Radio Capi, grand témoin.
Ancien président, administrateur délégué de la MIBA, gouverneur de la province du Kassaï-Oriental et ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui il est député national, Jean-Charles Okoto Lolakombe est l'invité de Grand Témoin. Jean-Charles Okoto, vous avez travaillé comme directeur commercial de Zahir Aéroservice ZAS, comme chef de division à la Société Nationale d'Assurance SONAS. Pourquoi vous quittez ces entreprises pour vous lancer dans la politique?
Il est vrai que je suis un manager. Je crois que ça va de pair. La politique a des assises partout, dans l'entreprise comme de la vie pratique politique. En d'autres termes, ce que je voulais dire, je crois que je n'étais pas formé assureur. C'est par un accident que je me suis retrouvé dans cette entreprise parce que à l'époque, j'avais commencé à part la ZAS, il y avait d'abord ISAM, l'Institut Zéro de Management. C'est là où j'avais commencé avec le pauvre IFEFA. Je intervenais auprès de différentes maisons de formation localement ici. Et je faisais le diagnostic, je formais le noyau des formateurs internes. Et une fois, je suis venu dresser un diagnostic à la SONAS pour trouver les points forts et les points faibles afin de pouvoir relancer et contribuer à la promotion de la SONAS. Le feu PDG Lundu Pecos me retiendra suite à ma prestation et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la SONAS. Mais par après, ma formation, vous le savez très bien, je suis diplômé de formation dans la faculté des sciences politiques et administratives. Il est tout à fait normal que je puisse revenir à la politique parce que c'est là où je me retrouve et je crois qu'on apprend à nager qu'à la piscine et c'est là où se trouve ma piscine.
Alors, Jean-Charles Okoto, vous avez plusieurs fois travaillé comme conseiller ou directeur de cabinet dans plusieurs ministères des gouvernements. Nous citons Lunda Bouloulou, Moulumba Lukoji, Tshisekedi, Mungul Diaka et Birindwa. Comment vous vous retrouvez dans ces sillages?
Franchement, je crois qu'il y a la providence, parce qu'il y a certaines choses dont moi-même je n'arrivais pas à me justifier. C'est-à-dire que je me retrouvais comme commissaire de zone à Rutshuru et à Beni. Une fois à 90, quand Mobutu décidera de pouvoir libéraliser les activités politiques, et il y a une décision qui était sortie, comme chaque administrateur du territoire, tous les territoires devaient travailler dans leur province d'origine. C'est comme ça que malheureusement l'ancien gouverneur de Goma, et moi-même, ancien administrateur du territoire de Beni, et à ce moment-là je me retrouverai à Rutshuru, c'est avec beaucoup de peine que nous sommes séparés avec notre population. Et c'est comme ça, passant, j'ai rencontré un oncle qui était au ministère du sport. Il était tellement malmené dans la presse, écrit dans le milieu sportif, c'est M. Tanguelo Jules, et j'ai continué, il m'a contacté pour pouvoir l'aider comme conseiller politique. J'étais devenu comme directeur de cabinet adjoint. Et c'est comme ça que je me retrouverai dans le ministère de sport et loisirs. Et là, j'ai fait au moins 5 gouvernements de transition comme venait de le
voir. Ouais.
Tous les ministres partaient, j'étais le unique conseiller. À un certain moment, les gens croyaient que j'étais devenu un féticheur, mais c'est toujours à cause de ma prestation. Et voilà comment je me suis retrouvé dans ces différents cabinets.
Vous parliez déjà de votre parcours dans la territoriale. Vous devenez vice-gouverneur, puis gouverneur de la province du Kasaï-Oriental. Comment expliquez-vous le fait que la province du Kasaï-Oriental, qui est l'une des plus riches de la RDC avec son diamant, a beaucoup de mal à décoller? Il n'y a pas d'infrastructure, pas de route, pas d'électricité. Qu'est-ce qui se passe dans cette province?
Ça, c'est vrai. Je crois que la question est pertinente. Et moi, c'est pour une fois, j'ai dû échouer dans ma vie. Pas échoué à 100%, mais peut-être à 70%. Parce qu'il faut avouer que je suis un homme un peu spécial, excuse-moi de le dire. Je suis l'élu kassaïen, avoir occupé les 3 postes importants du Kassaï-Oriental. Vice-gouverneur, gouverneur et PAD
de la NIPA.
Et à ce titre-là, je crois que je suis mieux placé pour vous dire d'où vient ce fléau. Je pense que d'abord, le mal est d'abord nous-mêmes kassaïens.
Comment?
Je peux vous donner l'exemple. D'abord, Boujimaï, c'est une ville exceptionnelle. C'est une ville qui n'a pas été urbanisée. C'est une ville qui a été créée par les autochtones eux-mêmes, contrairement à Kananga, où vous arrivez, vous trouvez toutes les infrastructures. Comme c'est une ville qui n'a pas respecté les normes urbanistiques, ce qui fait que les autochtones ont créé la ville à leur manière, parce qu'ils n'avaient que la Miba qui existait à l'époque.
Avec sa cité.
Ce qui fait que les caniveaux n'ont pas été respectés. Les routes sans caniveau, vous vous imaginez, c'est comme une fleur sans odeur. Cela a créé beaucoup d'érosion. Ce qui fait qu'il y a maintenant plus de 450 têtes d'érosion pour la ville des Boujimaï. À l'époque, je crois qu'il fallait une fourchette financière d'environ 40 millions de dollars pour pouvoir ne fût-ce qu'arrêter les têtes d'érosion. J'avais déjà un plan où on devait, juste après la rivière Le Village, j'avais déjà un paquet de consorts où on devait déplacer la ville. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rester le temps et la guerre est arrivée. Ce qui fait que, pour moi, de ma part, je crois avoir fait ce que je pouvais parce que je suis l'unique à avoir créé un boulevard chez nous au Kasaï-Oriental. Si vous arrivez aujourd'hui à Boujimaï, le boulevard Laurent-Désiré Kabila, c'est suite à mon œuvre et ce sont les petites empreintes que j'ai laissées. Je crois avoir dit également que depuis que la ville de Boujimaï existe, Kabeyaka Mwanga, Chisisekedua Mulumba, tout le monde travaille sous une paillote. C'est pendant ma petite période que j'ai construit un bâtiment administratif, l'aéroport de Boujimaï. Depuis que la ville a été créée, cet aéroport avait toujours le statut national. C'est pendant la guerre que je me suis organisé, j'ai travaillé dur. C'est la raison pour laquelle parfois je ne comprends pas certaines choses qui se passent en temps de paix. Dur, et l'aéroport a aujourd'hui un statut international. Pour revenir à votre question, parce que vous avez parlé sans eau, sans l'eau, je vous ai parlé pour l'infrastructure routière. Mais je l'avoue, à l'époque quand je suis arrivé à la MIBA, le président de la République, l'unique souci et l'unique devoir qu'il m'avait demandé, c'était de résoudre le problème de Maï, d'Embo, parce que j'ai eu à créer 3 turbines faites par les Congolais, sans l'appui extérieur, sans le fond extérieur, malheureusement. Je quitterai la MIBA 2 mois après et tout ce que j'avais fait est tombé dans l'eau. Tout a été exfolié à lambeaux et malheureusement, si je devais résoudre ce problème, mais qu'est-ce que vous voulez? La vie est ainsi faite.
Nous en arrivons au moment où vous avez dirigé la minière de Bakwanga, MIBA. Dans un article à la revue Jeune Afrique, paru en juillet 2004, vous affirmez, je cite, « À la tête de la MIBA, j'ai accru la production de 300 000 à 700 000 carats en l'espace de 2 ans, éradiqué le vol des pierres par un système de sécurité sans faille, mis fin à la vente artisanale et instauré l'écoulement de la totalité du diamant produit à la bourse internationale. » Mais cependant, certains de vos détracteurs vous accusent d'avoir mis la MIBA par terre.
Vous savez, c'est avec beaucoup de peine, et je retiens mes larmes difficilement quand on me pose ce genre de questions. Pourquoi? Parce que finalement, c'est là où on se pose la question, qu'est-ce que veut notre pays? Qu'est-ce que veulent plutôt les Congolais? Je crois que tout ce que vous avez dit, et je confirme encore ma déclaration, parce qu'elle est fondée, je suis arrivé à la tête de la MIBA, j'ai trouvé la production à 350 carats, 1000 carats par mois. Ma première production est allée à 785. Allez-y, vous posez la question. C'est parce qu'effectivement, j'avais suivi les instructions de Mosé. C'est ce qui a failli même emporter. Mosé avait trouvé que l'amiba était complètement déchirée par le vol. Et la production ne répondait pas à l'appel et aux besoins du gouvernement. Et voilà, j'ai nagé contre le courant. Je crois que mes détecteurs ont eu tort. Aujourd'hui, je crois que la nature nous donne raison. Une chose est vraie, et que je ne vais même pas en parler. Moi, ce qui me plaît, et que le fait d'avoir fait mon travail, c'est-à-dire d'avoir aidé mon pays à se défendre, le fait d'avoir aidé mon pays à ne pas le pousser à la balkanisation. Mais je vous avoue sincèrement que tout ce qui a été raconté, bien au contraire, je pensais qu'après, Jean-Charles Couteau serait au moins honorifié, et que je serais même baptisé, peut-être le meilleur manager. Et vous vous imaginez que c'est en Suisse, et pendant que j'étais là, que je vais être baptisé comme meilleur manager de l'Afrique. Hein, on s'est retrouvé, il y avait 7 pays, le Rwanda, le Congo, qui a été nominé, le Ghana, le Nigeria, Côte d'Ivoire à l'époque. Donc on est au nombre de 7. Pour revenir à ce que vous avez dit au niveau de l'amiba, je crois que, vous savez, c'est parfois difficile de parler, et je suis en train de regretter aujourd'hui, parce que j'ai laissé l'amiba en très bonne santé. Aujourd'hui, j'apprends que l'amiba est pratiquement par terre. Je me pose des questions. Il est vrai aussi que nous n'avons jamais été aidés. C'est comme ça que j'avais dit, même à l'époque, dans le Jeune Afrique. C'est-à-dire, on nous prétendait d'avoir détourné 80 millions de dollars. Mais Miba, après vente, parce qu'il y a la Belgolaise qui était là, et Miba, c'est une société mixte, où le Congo avait 80% et Sibeka 20%. Donc, on travaillait des concerts avec les Blancs. Et nous, on produisait 7 millions de dollars par mois. Il n'y a que 2 500 000 qui arrivaient au Congo, parce qu'on avait trouvé à la Miba une dette de 60 millions de dollars. Et à la source, les fournisseurs retiraient déjà 4 millions de dollars. Il fallait payer 1 million de dollars comme à compte fiscaux. Dis-moi où est-ce qu'on pouvait détourner de l'argent. Et puis de deux, on s'est même posé la question. Parce qu'à l'époque, nous avons sollicité un crédit auprès de la Belgolaise de 1 500 dollars. On n'a jamais eu une fiche que 500 dollars.
Comment relancer l'amiba aujourd'hui, à votre avis?
Non, je crois que la plaie est très profonde. La plaie est très profonde. Parce que comme je vous l'avais dit, j'ai d'autres ambitions maintenant. Chez moi, pratiquement, avec la décentralisation, nous aurons bientôt notre projet du Sankourou. Je crois avoir déjà fait mon travail. Je souhaite une très bonne chance à mon jeune frère, Paul Kamongo, qui est aujourd'hui à la tête de l'amiba. J'ai vraiment pitié de lui parce que l'homme a hérité une situation la plus épineuse. Le Sankourou aujourd'hui, notre future province, nous avons des diamants. Nous avons l'or qu'on ne trouve nulle part au Congo.
Potentiellement toujours.
Voilà. Nous avons le pétrole, nous avons tout. La terre qui est très riche. Aujourd'hui, à ma qualité de chef coutumier, j'aimerais œuvrer là-bas pour laisser aussi les empreintes comme je l'ai fait à Bujimaï, de faire la même chose au Sankourou et de contribuer à l'essor de mon entité politico-administrative.
Dans l'actualité, Jean-Charles Couteau, une coalition d'ONG internationales, parmi lesquelles Global Witness et RED, dénonce le détournement par le gouvernement congolais de ce processus d'examen. Outre ce détournement, ces ONG accusent le gouvernement de la RDC de conclure de nouveaux contrats miniers en catimini. La directrice de RED estime que le ministère public et les organismes de contrôle européens doivent d'abord examiner les résultats des audits financiers de certaines compagnies minières en RDC. Tricia Finet révèle que la gestion financière et les pratiques comptables de plusieurs sociétés minières sont loin de se conformer aux normes acceptées par les bourses internationales. Elle a été jointe au téléphone depuis Londres par Jeff Ngoy.
De nouveaux contrats sont en train d'être conclus en catimini, malgré le fait que le processus d'examen des contrats miniers n'est pas terminé et que la transparence requise n'est pas toujours atteinte. Comme exemple d'un des nouveaux arrangements, le fait que Katanga Mining ont cédé aux entités chinoises qui prennent des parties de leur concession à Tamoto, Machamba et Dikului pour le près de 5 milliards de dollars fait par la banque chinoise Exim. Et c'est pas clair pour la communauté internationale, pour la société civile congolaise. Nous pensons que le gouvernement doit commencer à mettre en action une révision de contrat avec les garanties de transparence. Le ministère public, les autorités de la bourse à Toronto et à Londres doit examiner ces audits pour voir s'il peut entamer la justice contre certaines compagnies.
Jean-Charles Couteau, avez-vous une réaction?
Je sais pas si vous pouvez vous imaginer la réaction que je peux donner, hein, parce que je suis d'abord nationaliste. Et j'avais dit à un certain moment que je dois cesser de m'appeler nationaliste parce que être nationaliste dans un pays africain, ce n'est pas intéressant. Je regrette beaucoup, surtout le dialogue nord-sud. Jusqu'à quand est-ce que nous, les Africains, nous devons continuer à subir le dictat de l'extérieur? Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de juger les autres. Et nous voulons que les autres nous jugent. Je dois vous rappeler, une grande puissance du monde a organisé les élections à son temps. Mais on avait appris qu'il y a eu une tricherie. Je crois que le Congo, moins encore d'autres pays africains, n'ont pas eu le temps de solliciter pour aller aider cette grande puissance à compter les voix.
Ce n'est pas une façon de se dédouaner là?
Pas du tout. Je vais en arriver. Parler des contrats miniers, parce que moi-même je ne suis pas au gouvernement, je suis au Parlement. Il m'est difficile aujourd'hui de pouvoir défendre un gouvernement dont je ne fais pas partie. Je suis encore moins dans la commission socio-culturelle ou des ressources humaines. Je suis aujourd'hui chargé des relations extérieures. Alors, il m'est difficile de pouvoir vous répondre. Mais moi, je vais sur le plan macro. Je me dis ceci. Pourquoi doit-on toujours juger les Congolais? Pas plus tard, il y a 6 mois, il y a un pays aussi qui a connu une crise la plus aiguë. Mais on n'a pas vu des Congolais aller aider ces gens. Je crois qu'ils sont organisés eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a une solution. Moi, je pense que nos amis qui veulent nous aider, il est vrai que nous-mêmes ne sommes pas honnêtes. Qui est honnête dans ce monde? Même les gens qui nous jugent, même les gens qui viennent nous apprendre. Mais il est vrai également que nous devons, si cela s'avère vrai, ce n'est pas normal, nous devons arrêter l'hémorragie. Mais moi, ce que je dis, il m'est difficile de pouvoir répondre parce que c'est tellement complexe. Mais s'il faut prendre le petit exemple de ce que nous avons eu, je vais vous donner l'exemple de la Sengamine. On en parle moins, c'est sec qu'à un certain moment, j'ai eu énormément de problèmes. Sengamine devait être créée pendant la guerre. Et c'est pas dans la concession MIBA. Bien avant, il y avait déjà une lettre d'intention, une autre société avec la MIBA, où la MIBA ne pouvait obtenir que 5%. Pendant la guerre, on crée la Sengamine, quand bien même qu'aujourd'hui, on ne m'a même pas invité à l'immigration d'Afrique, parce que c'est moi là, l'artisan.
Vous n'avez pas là une trop haute opinion de vous-même?
Non, excuse-moi, je préfère avoir un œuf sur la langue. Alors, je me dis, quand on avait créé cette histoire, les gens ont beaucoup crié. Oh, voilà, c'est une façon de voler l'argent, il y a eu des pillages, il y a eu ceci. Nous, qui étant attaqués hier, parce que nous nous sommes défendus, on a renversé l'équation, c'est nous qui devenons des pierres, c'est nous qui... Alors, vous voyez, il y a toujours un jugement assez négatif à chaque fois qu'on veut parler de notre pays. Mais sinon, je vous l'avoue, nous allons maintenant à un état de droit. Nous avons déjà mis un pied dans la démocratie. Je crois que tout ce qui peut aller à la contre de l'esprit international de la gestion et de management, et surtout au niveau de la bonne gouvernance, ne peut être que condamnable. Mais il faut prendre toujours avec le PCF.
Oh,
Quelques secondes pour terminer cette émission. Jean-Charles Okoto, vous avez aussi servi comme ministre des Affaires étrangères. La diplomatie congolaise est malade, on le sait. Les diplomates sont impayés, les ambassades vendues faute de loyer. Comment réorganiser ce secteur?
Merci beaucoup. C'est un problème assez profond comme l'amiba, parce que cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis à l'époque de Mobutu. Il faut avouer que la diplomatie et des missions diplomatiques accréditées à l'extérieur va de pair avec l'économie du pays. À l'époque, je crois que vers les 70, 80, 85, notre diplomatie jouait très bien son rôle. D'autant plus que économiquement, le pays était très fort. Aujourd'hui, avec les crises, avec les guerres, il est difficile, difficile de pouvoir rémunérer. Il y a même de ces diplomates. Moi-même, j'en ai connu le cas. J'arrive à Washington. Je trouve un personnel, un pays, il y a de cela 20 ans. Par où commencer? Et on avait trouvé une solution, de payer par fractionnellement.
Il ne résout pas
le problème. Et pour rapatrier ces gens-là, ça demande beaucoup d'argent. Et je crois que c'est un problème. Il faut d'abord une discipline. C'est-à-dire, il faut voir des pays voisins. C'est comme Kinshasa. Je prends l'exemple des pays des Grands Lacs. Vous avez Burundi, vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, par exemple. À quoi bon d'avoir trois missions diplomatiques dans ces trois pays? On peut prendre, par exemple, au Burundi, on met une mission diplomatique. Et le même chef de mission diplomatique contrôle la juridiction du Rwanda et de Burundi. On réduit, quand on aura une économie assez prospère, à ce moment-là, on peut revenir. Et je crois qu'il y a lieu de pouvoir comprimer aujourd'hui certaines missions diplomatiques que j'estime vraiment un peu inutiles pour le moment, quand bien même c'est indispensable, parce que faute de moyens. Parce que sinon, nous risquons de toujours, et cela surtout, parce que vous savez, quand une mission diplomatique s'implante quelque part, dans un pays étranger, cela reflète même l'image de marque du pays. Et quand, par exemple, vous allez dans certaines circonstances, dans certaines manifestations, vous voyagez sur des missions diplomatiques qui viennent à pied, ouais, vous pouvez crier, même un président de la République est arrivé quelque part, mais c'est cette mission diplomatique qui reflète l'image de son pays. D'où je crois qu'il y a lieu de pouvoir comprimer, réduire le nombre de diplomates et voir à la longue, il faut faire aussi des états généraux. Je lance l'appel à l'actuel ministre des Affaires étrangères, que j'apprécie beaucoup, d'appeler tous les anciens ministres des Affaires étrangères étrangères pour que nous puissions nous trouver autour d'une table, chercher des voies et moyens, comment nous pouvons résoudre ce problème.
Jean-Charles Coteau, merci d'être venu.
C'est à moi de vous remercier.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Ancien président administrateur délégué de la MIBA, gouverneur de la province du Cathay Oriental et ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui les députés nationaux, Jean-Charles Okoto Lolakombe, celui que grand témoin recevait pour vous. Merci à Jean-Claude Anciala qui a réalisé et assuré la technique de cette émission. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter les émissions passées de grands témoins. Restez avec nous sur Radio Okapi. Thank you.